Vous êtes sur RTL.
Maxime Sorel. On y va, on vous écoute.
Avec ça, vous allez pouvoir vous la péter quand même.
On est impatients.
Est-ce que vous savez qu'il y a quand même moins de 100 personnes à avoir fini un tour du monde comme celui que je viens de faire, et il y a plus de 500 personnes à être allées dans l'espace? Vous saviez ça?
Pas mal la comparaison.
Ça veut dire que c'est, en gros, si je vous suis, c'est plus facile d'aller dans l'espace que de faire ce que vous avez fait.
C'est ça, en gros. En gros, une équipe technique qui prépare un Vendée Globe, prépare quelque chose plus dur que d'envoyer quelqu'un dans l'espace, et pourtant on a beaucoup moins de moyens. Quand même.
100 personnes, je pensais qu'il y avait beaucoup plus.
Alors on doit être à 102, parce que là il y a encore des arrivées sur le Vendée, donc on était à 84 avant le départ de ce Vendée Globe.
Et je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient allées dans l'espace, surtout. Ça fait beaucoup de monde.
Mais du coup, ça veut dire qu'on est méga privilégié parce qu'on n'a pas reçu personne qui allait dans l'espace. On a reçu quelqu'un qui a fait devant des gueules.
Prochain invité, Thomas Pesquet. Parce que là, il chauffe, Thomas Pesquet.
Hein. C'est très, très bien cette info pour moi, le dîner à Cazé. Ça, c'est vraiment pouvoir se la péter, comme dit Maxime Sorel. 19h30.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert nous éclaire sur l'actualité.
Et justement, en plus, la transition
est toute trouvée.
Cette semaine, il y a Frénésie martienne qui nous interpelle. Les Émirats arabes unis, la Chine viennent d'arriver. Les Américains y seront la semaine prochaine.
Oui, 7 mois de voyage, des milliards engagés dans des projets incertains. En fait, on a voulu essayer de comprendre pourquoi un tel engouement et est-ce que c'est vraiment indispensable de coloniser l'espace.
Et puis surtout, est-ce qu'on n'est pas face aux explorateurs des temps modernes, ceux qui vont dans l'espace? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a contacté le physicien Christophe Galfard, qui est notamment auteur de L'Univers à portée de main chez Flammarion. Il a notamment été aussi l'élève de Stephen Hawking. Et d'abord, pourquoi on y va sur la planète rouge?
Alors, il y a plein de manières de répondre à pourquoi on y va. Il y a évidemment la curiosité, la recherche de nos origines, savoir si on est seul dans l'univers ou s'il existe de la vie qui peut apparaître ailleurs. Tout ça, c'est des questions qui sont fondamentales et auxquelles on essaie de donner quelques réponses grâce à ces missions-là. Mais il y a aussi, évidemment, et ça c'est un petit peu moins dit en général, des compétitions technologiques entre nations. Ça, c'est important pour le moral d'être devant les autres, je pense. Enfin, quelque part, c'est ce que certains ressentent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on parle d'une planète. Une planète, ça, potentiellement, ça a des ressources, mais colossales. Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse trouver sur Terre, qu'on puisse trouver là-bas. Une fois de plus, on parle d'une planète. Quand bien même on trouverait une autre petite île au milieu de, je sais pas, quel océan, Pacifique ou autre, il y a forcément plein de choses dessus. Là, on parle d'une planète. Je pense que c'est dans notre intérêt. Il faut que ce soit bien fait. Au lieu de le mettre sous le sceau de la conquête et de la colonisation, qui sont des termes quand même très négatifs, j'adore l'idée d'exploration, moi, d'exploration humaine, et j'espère qu'on apprend aussi un peu des erreurs qu'on a fait de par le passé, et que ces missions-là, ces technologies inventées, ces découvertes qu'on fait, nous font prendre conscience de plus en plus à chaque fois de la fragilité de notre monde à nous.
Ouais, donc c'est quand même une histoire de ressources, mais est-ce que c'est vraiment indispensable d'y aller?
Pour Christophe Galfard, visiblement oui, hein. Écoutez.
On parle d'une réelle aventure humaine, je trouve ça extrêmement important, extrêmement positif. Et puis un jour ou l'autre, de toute façon, on aura besoin de s'étaler un petit peu dans l'espace et dans le temps, si vous voulez, pour ne pas, comme disait Stephen Hawking, garder tous nos œufs dans le même panier, pour peu qu'il y ait une pandémie, par exemple. On commence à, je ne sais pas si ça pourrait arriver, ce genre de choses, mais notre temps sur Terre est forcément nécessairement limité. Ensuite, aller sur une autre planète, il faut commencer par explorer ce qui est autour de nous. Bah, forcément, au début, on ne pourrait pas habiter à l'extérieur. Par exemple, l'air martien n'est pas respirable. Il n'y a pas d'oxygène, il est très ténu, il n'y a pas beaucoup de pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'en gros, vous sentez sans combinaison, tous les liquides de votre corps se mettent immédiatement à bouillir. Donc, c'est pas très sympa. C'est pas très accueillant, si vous voulez, comme lieu. Mais c'est une étape. Je suis sûr que des gens iraient là-bas. Probablement des chercheurs au début et peut-être des industries minières qui commenceraient par aller là-bas.
Ouais, et tout ça, ça nous a donné envie de faire une sorte de parallèle, vous savez, avec les grands explorateurs du 15e, du 16e siècle. Mais est-ce que c'est comparable? Réponse de l'astrophysicien.
Être humain, c'est être curieux quelque part. Donc on a toujours envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Là, il se trouve que c'est pas une colline qu'on franchit, c'est l'espace. Pour aller trouver quoi? Un nouveau monde. Magellan, etc., ils n'envoyaient pas des drones avant eux. Ils y allaient au petit bonheur la chance, un peu, en espérant qu'ils trouveraient ce qu'ils espéraient trouver. Alors que là, dans l'espace, on a des technologies complètement différentes. On est tout à fait capable de tenter d'aller voir ce qui se trame là-bas avant d'y aller. Ça, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'aurais vraiment peur d'aller là-bas dans une fusée, etc. Il faut quand même avoir le cœur solide pour s'embarquer dans ce genre Thomas Pesquet, je suis sûr qu'il adorerait faire ça. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Il faut des gens quand même assez particulièrement courageux pour réussir à faire ce genre de voyage aujourd'hui.
Passionnant. Hein.
Ouais. 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 Le dernier à y aller, moi.
Je ne sais pas. Qu'on y envoie les chercheurs d'abord.
Ouais, ouais. Et puis après, on verra. Maxime Sorel, la fusée, oui. Mars, oui, pourquoi pas.
Un Vendée Globe sur notre planète, pourquoi pas.
Ça va demander un gros budget en bitcoin, à mon avis.
Et en eau.
19h34, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la deuxième info pour briller. Au dîner, 19h34, on défait le monde tous ensemble, toute l'équipe en direct ce soir encore. C'est la saison 2, c'est l'épisode 24. On est ensemble jusqu'à 20h.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À 19h36, c'est la deuxième de ce soir et on va parler, Brice, du génie du Kosovo.
Oui, des élections législatives se tiendront ce week-end au Kosovo, petit pays très instable politiquement puisque ce sont les sixièmes élections législatives en 13 ans d'indépendance. Le Kosovo, c'est donc dans les Balkans, un peu moins de 2 millions d'habitants. Eh bien, c'est la population la plus jeune du continent européen puisque plus de 40% de la population du Kosovo a moins de 25 ans. Et l'explication, en fait, elle est assez simple. En France, on a connu un baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Et bien, au Kosovo, ils ont connu le même phénomène après la guerre qui a pris fin à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et donc, aujourd'hui, en 2021, ben, plus de 40% de la population a moins de 25 ans.
C'est énorme.
C'est incroyable. Très, très jeune, le Kosovo.
Et ça pourrait d'ailleurs faire basculer politiquement le Kosovo, puisqu'il y a énormément, cet électorat jeune a envie de faire un peu changer le paysage politique.
Pour les législatives.
Alors, vous voulez vraiment qu'on y aille? C'est un duo de personnalités très jeunes, notamment, il y a une femme et un homme. Et elle est née en 82, donc elle est plutôt jeune. Et ils espèrent justement mettre un peu un coup de balai sur la vieille classe politique kosovare, et notamment la corruption, etc.
Vous savez tout grâce à Brice Dugénie, le grand reporter du service étranger de RTL. 19h37.
RTL.
Le loser de la semaine.
Le grand perdant de la semaine est là. Son cœur de supporter canari est en train de saigner. Mais Laurent, franchement, vous pouvez pas passer à côté du FC Nantes qui a limogé Raymond Domenech 42 jours seulement après l'avoir recruté.
C'est vrai que c'est très dur, le FC Nantes, le club de mon cœur. Et c'est vrai que cette semaine, on n'a pas connu d'exploits sportifs, mais plutôt des exploits en coulisses.
Coup de théâtre au FC Nantes. À peine arrivé, Raymond Domenech va devoir faire ses valises après 7 matchs sans victoire.
Nantes qui a perdu une nouvelle fois 4-2 contre Lens en Coupe de France. Et un éternel recommencement pour Valdemar Quitta qui, avec Antoine Comboiré, va embaucher son 16e entraîneur en moins de 14 ans.
Et un constat encore plus dramatique, le FC Nantes cette saison, c'est 4 entraîneurs. C'est plus que le nombre de victoires en Ligue 1 et le petit chiffre de 3. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Le FC Nantes, l'un des plus beaux palmarès du football français. 8 titres de champion de France, le jeu à la nantaise, des noms prestigieux, Henri Michel, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Maxime Mossis, Jean-Claude Chiodot, Mickaël Landreau, mais...
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Oui, depuis 2001 et le dernier titre de champion de France, les supporters attendent péniblement depuis 2 passages en Ligue 2. Et ce n'est pas cette année que les Canaries vont me redonner le sourire. 18e de Ligue 1, à la tête du FC Nantes, un homme, Valdemar Quitta.
Le Quitta Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes.
Valdemar Quitta, propriétaire du club depuis 2007, et ce palmarès, plus de 15 entraîneurs en moins de 14 ans chez les Canaries. C'est quoi le problème, monsieur le président?
Je n'ai jamais eu de problème humainement avec un entraîneur.
Tu bluffes, Martini.
Pas sûr. Je dis encore une fois de plus, j'ai jamais eu de problème avec un entraîneur.
Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il n'a pas l'air de bluffer là quand même.
Bon, pour comprendre Valdemar Quitta, il faut remonter à sa toute première conférence de presse il y a presque 14 ans. Quelle est sa vision de l'entraîneur?
Si on voit qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même vision. Vous savez, il ne faut pas rester en couple quand ça ne va pas.
Ouais, mais là on peut dire que le président nantais a bien enchaîné les conquêtes depuis 14 ans. Bon, à un moment donné, si la relation est à chaque fois un échec, on peut se demander...
Selon vous, dans un couple, y a-t-il toujours un dominant et un dominé?
Ah, réponse du principal intéressé.
Je fais ça, monsieur.
Les footballeurs et les entraîneurs, quand une femme ne veut pas coucher avec vous, elle ne couchera pas. Hein. Elle partira. Hein. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Donc s'ils ont envie de rester, ils restent. S'ils n'ont pas envie de rester, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux rien faire.
C'est vraiment Valdemar Quitta qui parle.
Vraiment Valdemar Quitta.
La classe.
On sait plus ce qui est du montage ou pas avec Valdemar Quitta.
C'est vrai.
Mais allez, une nouvelle histoire d'amour a démarré au FC Nantes. On se dit une nouvelle fois que c'est la bonne.
Histoire éternelle. Qu'on ne
ne crois jamais.
On veut y croire. Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Antoine Comboiré, a donné hier sa première conférence de presse. Donnez-nous un peu d'espoir, coach. Faites-nous rêver.
Je ne veux pas dire que j'ai jamais rêvé d'entraîner Nantes.
Bon, ça démarre bien. Que pense-t-il des joueurs en ce moment ?
Ils ne sont pas au niveau mentalement et ils savent qu'ils sont mauvais. Hein. S'ils sont là, c'est aussi un peu de leur faute aussi.
C'est vraiment la caca, la cata, c'est là. C'est la cata.
Bien, bien. Bon, on espère au moins que le club nous fera rêver dès dimanche contre Angers pour ne pas avoir à chanter ses paroles dans quelques semaines.
Joli titre de loser de la semaine, ouais. En tous les cas. Presque pire que l'Olympique de Marseille.
Ah, mais c'est pire, c'est dur.
Vous êtes foot, Maxime Sorel, ou pas?
Ben, mon père a essayé de m'y mettre. J'en ai fait 2 ans et on me surnommait la Tortue Ninja. Que je sautais un peu partout, sauf autour du ballon. Donc,
Oui, ça ne paraît pas. Ça paraissait pas être un compliment, en effet.
Vous avez fait le bon choix de changer, de prendre le large, justement.
En tout cas, le supporter rennais qu'il est un petit peu voit du petit lait. Quand il regarde les canards,
c'est cadeau. Hein.
C'est vrai que j'ai reçu des news quand même à bord, des news de sport, et j'avais l'impression de plus rien comprendre au FC Nantes. Je savais pas si.
Merci, Maxime.
19h41, on a un cadeau pour les auditeurs.
Le rayon de soleil qui réchauffe ces soirées de grand froid.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Oui, Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni. Me dites pas que vous surfez sur la Saint-Valentin quand même avec vos cadeaux.
Ouais, vous me connaissez, vous savez que je suis hyper romantique.
Ouais.
Vous ne savez pas comment dire. Je sais.
Et comment?
On vous offre ce soir un bouquet de fleurs. Un bouquet intitulé « Amoureux » qui a été créé par les fleuristes Interflora. Il sera livré directement chez vous par l'un des 5200 fleuristes d'Interflora. Et c'est un bouquet composé de roses, de fleurs de saison. Et il est extrait de la collection Saint-Valentin. Vous connaissez, vous savez quelles sont les fleurs de saison, par exemple? Pas du tout.
En hiver, non, pas trop.
Et bien les iris, par exemple, sont des fleurs de saison.
Ah, d'accord. Voilà.
Vous aimez le chocolat? On peut aussi vous offrir... Bah tenez, oui. Des petits chocolats Jeff de Bruges.
Ouais. Allez.
Édition limitée spéciale Saint-Valentin. Un petit ballotin avec les meilleures recettes chocolatées. Voilà, je crois que c'est pas mal.
Bah c'est super.
Et je précise que Grégory Caranoni a failli être fleuriste dans une autre vie.
Ah oui.
Oui.
Ah,
c'est une qualité qu'il a.
Si ça n'avait pas été la Saint-Valentin, j'aurais peut-être offert des Tortues Ninja pour Maxime, mais bon.
La question.
Bon, alors, question sonore. On vous parlait de la planète Mars tout à l'heure. Planète qui a inspiré l'une des plus belles chansons de l'histoire de la musique. Life on Mars. Qui chante ce chef-d'œuvre? Est-ce que c'est A, David Bowie? Est-ce que c'est B, Basil Bowie? Est-ce que c'est C, Carlos? David Bowie, Basil Bowie, Carlos, c'est cadeau, c'est les fleurs. 32-10, on tirera au sort parmi les bonnes réponses et on passera un coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission.
Évidemment, 3-2-1-0 à partir de maintenant, le standard est accessible.
RTL Soir, on défait le monde.
Le bien retour quand on prend des nouvelles d'une info ou d'une personnalité qui a fait la une et dont on parle moins.
Et ce soir, retour sur le Vendée Globe de Maxime Sorel. Il est avec nous en studio, mais avant d'arriver là, il a fait...
Classement, le surprenant Maxime Sorel compte une vingtaine de milles d'avance.
Il a mené la flotte du Vendée Globe sur VNB Mayenne. Bon, pas longtemps, mais il a été leader quand même. Il a aussi pris quelques seaux d'eau sur la tête.
Ça ressemble un peu à un spa, parce qu'il y a des hydrojets dans tous les sens. On en prend plein la figure. Et après, on a les yeux tout collés, plein de sel. Thalasso gratos aujourd'hui et bientôt le passage du front.
Mais la thalasso lui va bien au teint. Mais surtout, après 82 jours, 14h, 30 minutes et 15 secondes, tout seul sur son bateau, il a franchi la ligne d'arrivée à la 10e place. Et 15 jours après avoir retrouvé la civilisation, Brice, eh ben on avait envie d'en savoir plus.
Oui, prendre des nouvelles, respirer les embruns derrière le masque chirurgical. Alors, on parle beaucoup du retour des marins. Et d'ailleurs, au téléphone, quelques heures avant d'arriver, vous nous en aviez parlé. Et vous nous avez dit, en fait, il faut que je me dépêche, il y a une dépression qui approche, j'ai pas le temps de profiter. Est-ce que vous avez... mal préparé ou pas eu le temps de préparer votre tour? Comment ça s'est passé?
Mais non, en fait, tout le long de la course, je rêvais de cette dernière nuit où j'allais pouvoir faire une petite rétro de toute ma course et vraiment, on bloque les émotions à bord et me dire que bah, voilà, je pouvais me lâcher un peu, que derrière, c'était quasiment fini. Et ça, j'ai pas eu ça. Je suis triste de pas l'avoir parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et non, en fait, j'avais le couteau entre les dents. Il fallait que je me dépêche pour pouvoir passer la ligne en sécurité et rentrer le bateau au port.
Et ça, si vous le faites pas dans ces heures qui précèdent l'arrivée, après c'est autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez pas le faire une fois que vous êtes entre les deux jetés au Sable d'Olonne.
Ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'une fois que le bateau est pris d'assaut par l'équipe technique, hein, c'est vraiment ça, parce qu'ils montent à bord et ils s'occupent de tout. Et après, il y a tout un protocole et l'arrivée, voilà, on met des coups de fusée, on répond aux questions et c'est parti. Après, on a touché terre et c'est fini, quoi.
Et quand vous êtes arrivé, vous avez le choix, enfin c'est un cadeau, un privilège quand on finit le Vendée Globe, vous choisissez le repas que vous avez envie de manger. Vous, c'était une pizza pepperoni.
Ouais.
Et ça s'est bien passé ou pas? C'était bonne?
Alors le problème, c'est que je suis arrivé le matin, donc ils ont commandé la pizza la veille, donc elle était un peu fraîche.
Oh
quand
non
même.
C'est un scandale.
C'est génial.
Oh, l'équipe technique, ils prennent le bateau d'assaut. Ils les... Juste, votre bateau aujourd'hui, il est où? Qu'est-ce qu'il va devenir? Dans quel état il est?
Là, il est encore au Sable d'Olonne. En fait, il reste là-bas une quinzaine de jours. Ensuite, il va retourner dans notre port d'attache qui est à Concarneau. Et ensuite, nous, on va le désarmer et il va être vendu. Donc voilà, on projette un futur bateau plus récent, peut-être avec des foils, pour pouvoir envisager un top 5 sur le prochain Vendée Globe.
Ok, donc là vous passez une annonce clairement, vous vendez votre bateau. Il y a un prix, pardon, mais enfin je compte pas l'acheter, mais.
Ouais, alors là c'est en ce moment c'est le gros mercato des bateaux du Vendée Globe, quoi. Il y a vraiment quasiment tous les bateaux qui sont sur les pontons sont à vendre.
Ok, donc c'est pas si fait. On dit que certains sont même vendus avant l'arrivée, c'est vrai ça?
Ouais, il y en a qui sont négociés avant le départ. Et alors là, il n'y en a pas eu beaucoup de vendus avant le départ.
D'accord.
Il est dur le retour sur Terre, le retour dans la vraie vie, en voyant des vrais gens, tout ça?
Pas tant que ça, en fait, on m'avait prévenu, on m'avait dit attention, tu vas voir, quand tu vas te mettre à manger des légumes, tout ça, ouais. Pour la digestion, c'est compliqué parce que c'est frais et tout. Et je m'y suis vraiment mis vite. Et puis le sommeil aussi, pareil, ouais. La première nuit, on a un peu fait la fête. J'ai pas trop dormi et la première nuit que j'ai vraiment fait, j'ai fait 11 heures d'affilée alors que d'habitude, on fractionne le sommeil, quoi.
Et le corps, il récupère vite?
Ouais, la tête un peu moins quand même, parce que l'énergie qu'on a donnée dans des moments durs, voilà, c'est quand même hyper intense, on va chercher très très loin les choses, et les spécialistes disent qu'il faut entre 6 à 8 mois pour récupérer réellement mentalement d'un Vendée Globe. Quoi.
Et ouais. Alors justement, je pense à un moment où vous étiez alors face caméra, vous tournez une vidéo à ce moment-là, vous nous expliquiez que vous essayiez de remonter des voiles qui sont à l'eau, vous les avez roulées, vous êtes totalement désespéré. À quel moment vous dites je fais une vidéo, et surtout mentalement, où est-ce qu'on trouve les ressources? Vous aviez l'air un peu perdu, les voiles étaient là dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous faites?
En fait, le bateau il s'est quasiment retourné, il y avait quasiment le mât dans l'eau, et une fois qu'il est retourné, bah, l'eau vient sur le bateau et l'eau les grosses vagues ont embarqué les voiles qui sont allées à l'eau. Et j'aurais aimé filmer cette scène-là avant que les voiles aillent à l'eau, parce que le bateau était vraiment couché, mais en fait c'était soit je prenais la caméra, soit le mât cassait, donc j'ai préféré quand même redresser le bateau avant de prendre ma caméra. C'est ça qui est chouette, le Vendée Globe, c'est qu'on peut vous raconter des histoires, et pour ça, il faut filmer, donc à un moment donné, il faut saisir la caméra, quoi.
Maxime Sorel est l'invité de On défait le monde en ce vendredi soir. Maxime Sorel reste avec nous, bien sûr. Troisième info pour briller au dîner dans une poignée de secondes, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La troisième de ce soir, ça parle télévision.
Oui, l'émission Top Chef a fait son grand retour cette semaine sur M6. Et ça y est, on a tous envie, hein, moi compris, d'enfiler son tablier, la toque et de reproduire.
Calmez-vous quand même.
On va aussi quand même.
Émission de grande qualité.
Merci. Oh, bien placé. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans votre cuisine, alors savez-vous quel est le plat préféré en France?
En France?
Ah oui, en France.
Bah, jambon beurre.
Non, c'est pas un plat.
Le couscous. Le steak frites.
Bah, le magret de canard qui remporte la palme d'or. Ah oui, et oui, selon un sondage OpinionWay. Alors, viennent ensuite.
J'en mange jamais. Là,
c'est vrai?
Bah,
vous
ouais.
Devriez.
C'est
très
bien,
intéressant.
Ça. Ah ouais.
Viennent ensuite au classement la côte de bœuf, ouais. La raclette, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, les moules frites, le couscous, le steak frites évidemment classique.
Pas et les encore pizzas, mieux. Quoi.
Ah non, aussi, pas les pizzas pepperoni.
Ah, vas-y. Les pizzas pepperoni sont pas mal. Et encore mieux, selon une plateforme de livraison de repas, on peut connaître les plats les plus commandés par ville. À Toulouse, les fusillés au poulet ont la cote. À Paris, ce sont les pokeballs. Vous savez, les salades traditionnelles d'Hawaï.
Non, mais les fusillés au poulet, vous les faites tout seul?
Bah oui.
Vous parlez aux Toulousains, le mépris pour les Toulousains. Non, mais faites-les tout seul. À Toulouse, faites-les tout seul.
Révoltez-vous à Toulouse. Et à Lille, on choisit le pad thai, un plat traditionnel thaïlandais.
Ah, exotique.
Ah,
ouais.
Ah bon?
C'est le magret de canard, ça.
19h51.
Marche ou rêve.
Absolument, marche ou rêve, c'est quand on met en valeur vos initiatives et vos projets.
Oui, Maxime a été la star de cette rubrique pendant quand même un moment.
C'est vrai.
Et ben, on parlait du Paris Foot Maxime Sorel tout à l'heure sur le Vendée Globe. Là aussi, on est sur un défi étonnant. Un défi qui nous a un peu fait penser à l'un des meilleurs films du monde.
Quel chef d'œuvre.
La Jamaïque au JO de bobsleigh. Et ben Laurent, là aussi, c'est un défi en bobsleigh.
Hein. Ouais, un projet, un objectif pour Margot, 21 ans, et Carla, 24 ans, devenir la première équipe féminine française à participer au bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Et nous sommes en ligne avec Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Alors, avec Carla, vous connaissez depuis peu de temps. Racontez-nous comment s'est créé votre duo.
Alors, en juillet 2018, quand j'ai décidé de lancer le projet, j'ai demandé à un entraîneur d'athlétisme de me donner des noms de certaines filles. Et du coup, le nom de Carla est venu. Donc, je lui ai écrit sur Facebook. Elle a accepté qu'on se rencontre. On a fait des tests. Et aujourd'hui, ben, on voyage dans le monde ensemble.
Mais au départ, vous faisiez de l'athlétisme ou vous faisiez du bobsleigh?
Alors, moi, au départ, je faisais de la gym et de la luge. Donc, rien à voir.
Et pourquoi vous avez demandé à un entraîneur d'athlétisme s'il connaissait quelqu'un?
Alors parce qu'en fait les qualités physiques pour un pousseur c'est identique l'athlétisme et le bob, il faut être explosive, rapide, puissante. Du coup, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus.
Mais comme dans Star Rocket.
Comme pareil. Mais la personne qui va piloter a déjà piloté un bobsleigh, pardon.
Oui, alors on apprend à piloter. On ne devient pas pilote comme ça et ça prend du temps, c'est un long processus. Donc on est encore aujourd'hui en train d'apprendre, mais c'est vrai qu'on se débrouille plutôt bien.
Et il faut vous prendre un très au sérieux, vous avez terminé la semaine dernière à la 15e place de vos premiers championnats du monde senior en Allemagne. Et de votre côté Margot, vous êtes devenue championne du monde U23 le 22 janvier. Donc est-ce que le rêve des Jeux Olympiques de Pékin est bien accessible?
Oui, le rêve est là, et il nous ouvre encore plus les bras, on est encore plus motivés pour s'entraîner et aller chercher cet objectif à fond.
Comment vous êtes arrivée au bobsleigh?
Alors moi, mon papa est pilote de bob et j'habite à la plaine, donc j'allais le voir à l'entraînement.
C'est vrai que
et
ça aide.
Voilà. Oui, ça aide beaucoup.
Et où pouvez-vous vous entraîner, Margot, parce que les pistes se font rares?
Oui, alors en France, on s'entraîne à la plaine, c'est la seule piste.
La seule piste.
Et après, on s'entraîne beaucoup en Allemagne, en Autriche, on va aux États-Unis, Canada, bientôt en Chine. Donc on tourne en fait sur les pistes du monde.
Et pour les novices, comment ça marche quand on est dans le bobsleigh? Quelles sont les sensations?
Alors, est-ce qu'on aimerait y aller? Non mais je vais raconter à nos auditeurs, quand on a préparé l'émission, il m'a envoyé une vidéo de vous en train de descendre. Il m'a dit c'est comme Space Mountain, il faut absolument qu'on y aille. Donc Laurent aimerait être invité, mais racontez-nous comment vous faites.
Il n'a aucune notion, excusez-le.
Non mais je vous invite quand vous voulez à essayer, parce que c'est vraiment quelque chose à essayer. C'est vrai que c'est des sensations qui se retrouvent nulle part ailleurs, c'est vraiment spécifique au sport. On a de l'adrénaline, de la vitesse. Dans les virages, on prend de la pression. On prend jusqu'à 5G par virage. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier, mais c'est vraiment très cool à essayer.
Ouais, c'est autre chose que le tour du monde à la voile. Hein. C'est quand même beaucoup plus physiquement, c'est plus dur. Hein.
Je suis plus à l'aise dans un bob que sur une voile, je pense.
Et il faut rappeler que Margot poursuit ses études de commerce et sa famille a financé le bobsleigh.
Eh ben, on va vous suivre.
Ouais, carrément. Ouais.
Non, juste,
merci beaucoup.
J'en profite, on parle des jeux. Je voulais poser la question à Maxime Sorel. Le prochain Vendée Globe 2024, il y a un projet, vous voulez le faire? Vous voulez le gagner?
Mais ouais, l'idée, ça serait de faire 4 saisons. Donc démarrer cette année, à la fin de l'année, on a la Transat Jacques Vabre. Ensuite, il y aura la Route du Rhum. Ensuite, une autre Transat Jacques Vabre. Et puis en 2024, pourquoi pas un top 5 sur le prochain Vendée Globe? Avec vous, bien sûr.
Évidemment, on sera là.
Les fleurs et le chocolat pour un gagnant, une gagnante ce soir.
Dominique de Bourges, bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de Refait le Monde.
Bonsoir. On est ravis d'être avec vous, Dominique. Alors, la bonne réponse, on réécoute un petit bout de la chanson, c'est possible?
Non, c'est pas possible. Ça va être possible dans quelques secondes.
Vers 20h10.
On peut écouter, allons-y.
Vas-y, David Bowie ou Carlos?
Bravo,
Dominique.
David Bowie.
Dominique, vous gagnez un magnifique bouquet de fleurs et des chocolats.
Franchement gentil de votre part.
Eh ben c'est parce qu'on vous aime, donc c'est notre cadeau de la Saint-Valentin.
C'est notre cadeau de Saint-Valentin.
Mais je vous aime aussi, puis j'aime RTL.
Merci beaucoup.
Alors j'ajoute une montre.
Franchement, super.
C'est trop.
Vous nous aimez vraiment?
La fête des amoureux.
Vous nous aimez vraiment, vraiment, Dominique ?
Oui, RTL, ben
c'est super, j'ai rien d'autre, hein, de toute façon.
J'adore.
C'est moche. Merci de votre fidélité. À super. Très bientôt, Dominique.
C'est moi qui vous remercie.
Maxime Sorel, c'est super de vous accueillir en
merci d'être venu nous voir.
Ben, merci à vous. Hein.
Bravo,
à très bientôt.
Je sais pas, ouais, quel mot on peut employer, mais bravo. Quoi.
Ouais. Donc, j'espère vous voir très vite à bord, déjà, ce serait pas mal.
Ah bah oui, ah ouais, l'émission à bord. Ah, je vais bien voir Cyprien.
C'est clair.
On a plein de balles.
C'est clair.
Je serai meilleur après pour voir un coup.
Le surf de l'info.
À très vite, Maxime. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir été en direct. Toute l'équipe dont tu fais le monde se repose et fait une pause. Le oui. prochain rendez-vous, oui. c'est dans 15 jours.
Absolument. Oui.
Première pause depuis août 2019.
Et c'est ça.
Wow. Et vous voulez une médaille, non ?
Non, c'est juste pour signaler.
C'est vachement mieux qu'un tour du monde. Hein.
Allez, portez-vous bien dans un instant, c'est toute l'actualité.
On défait le monde dans RTL Soir.